Vladimir Poutine nous déclare sa guerre dans les airs. Et si notre ciel était devenu le nouveau terrain de jeu du président russe? On en parle tout de suite sur ce plateau. Bonsoir, merci de nous avoir choisis dans BFM Grand Soir. On est avec l'amiral Jean-Louis Bichot.
Bonsoir.
Bonsoir, amiral. Merci d'être avec nous. Ancien chef de mission militaire française auprès de l'OTAN. Bertrand Galichet, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Grand reporter, spécialiste des relations internationales. Et puis Thierry Arnaud va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Il est en retard. Il est en train d'entrer sur ce plateau. Je vous pardonne, évidemment. Éditorialiste et politique internationale.
Bonsoir,
BFM TV. Merci d'être là. Alors, on va parler justement de ces nouvelles incursions de drones. Il en est beaucoup question ces derniers jours, ces dernières semaines. Et décidément, le Danemark est devenu une obsession. Alors, vous allez me dire si c'est une obsession pour la Russie. Mais regardez, c'est le pays qui annonce aujourd'hui un nouveau survol de drones, cette fois au-dessus de la plus grande base militaire du pays. Je vous montre ce qu'a déclaré la police danoise à l'AFP aujourd'hui. Je peux confirmer que nous avons eu un incident vers 20h15 qui a duré plusieurs heures. Un ou deux drones ont été observés à l'extérieur et au-dessus de la base aérienne de Karup. Nous ne les avons pas abattus. Alors, amiral, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, particulièrement pour le Danemark cette semaine. On le rappelle, il y avait vendredi déclenchement d'une alerte, détection de survol sur 4 aéroports dans la nuit de mercredi à jeudi, le survol de Copenhague lundi soir. Voilà, et là, encore une autre incursion.
Vous avez remarqué la position du Danemark sur la carte. Il se trouve en plein dans les trois Baltes. Donc, c'est un endroit extrêmement important puisque c'est l'accès. Il contrôle tout l'accès à la mer Baltique et une partie de la mer du Nord. Donc, déjà, le contrôle de ce territoire, ou plutôt de gêner la surveillance de ce territoire, puisque c'est ce qui s'est fait, c'est une démonstration de force. Ensuite, on sait que politiquement, le Danemark est très proche de l'Ukraine, puisque l'Ukraine reçoit un soutien appuyé du gouvernement du Danemark actuellement. Donc tout ça, c'est beaucoup d'effervescence, c'est beaucoup de piqûres qui sont données aux Danois.
Ce sont des piqûres qui font mal ?
Non, ce ne sont pas des piqûres qui font mal, en tout cas pas
parce
à ce stade. Alors elles font pas mal, attention. La fermeture de l'aéroport de Copenhague pendant plusieurs heures, ça fait très mal économiquement, parce que ça veut dire que vous avez des milliers de personnes qui se retrouvent en rade dans un grand aéroport international. Donc il y a déjà une atteinte commerciale à cet aéroport. Il y a beaucoup de gens qu'il va falloir indemniser pour des retards, même si on peut invoquer dans une certaine mesure le cas de force majeure. Mais enfin bon, ça fait des ordres, comme on dit. Ça fait des ordres, donc ça porte atteinte à la renommée du pays. Le fait que ces drones n'aient pas été interceptés, effectivement, c'est aussi un point négatif, parce que on n'a pas de preuves. On dit que ça pourrait être les Russes, mais ça pourrait être simplement des gens malveillants ou des gens avec des relais vis-à-vis des Russes. Donc,
est-ce qu'on a d'autres ennemis que la Russie aujourd'hui?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais il peut y avoir des terroristes de tout poil dans tous les pays du monde. Il peut même y avoir des plaisantins dans tous les pays du monde. Donc voilà. Mais aujourd'hui, c'est certain. Si on cherche à qui le crime profite, tous les regards se braquent vers la Russie. Surtout que la Russie, en ce moment, elle doit faire oublier qu'elle vient de faire un grand exercice qui n'était pas si grand. Elle vient d'essayer de montrer la force et ça n'a pas été éblouissant. Donc voilà. Donc elle a besoin qu'on change de sujet. Bon moyen de changer de sujet, c'est ces drones qui encombrent le ciel européen.
Bertrand Galichet, vous aussi, vous soupçonnez fortement la Russie. Je vous montre notamment ce qu'a déclaré la première ministre danoise ces dernières heures. Il y a un pays qui représente une menace pour la sécurité de l'Europe et c'est la Russie.
Oui, pour l'instant, il n'y a pas de preuves, évidemment, mais il y a un faisceau d'indices concordants qui désigne évidemment la Russie. Alors, ces incursions de drones posent beaucoup de questions, notamment d'où viennent-ils? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on ne les ait pas tracés, qu'on ne les ait pas repérés au moment où ils sont entrés sur le territoire danois. C'était le cas aussi en partie pour d'autres incursions. Ils ont été finalement tracés un peu plus tard, mais on ne sait pas trop où ils sont partis ensuite. En tout cas, ils n'ont pas été abattus. Ces drones, ils peuvent venir de Russie, c'est peu probable parce que c'est trop loin. Ils peuvent venir d'un territoire russe qui est l'exclave de Kaliningrad. Ils peuvent venir également de Biélorussie ou ils peuvent venir d'une zone maritime qui peut être la mer du Nord ou la Baltique, puisque effectivement le Danemark a des proximités immédiates sur toutes ses côtes, avec notamment ses bases militaires, ses bases aériennes qui ont été survolées.
Donc, mais c'est pas complètement anodin. Ça fait beaucoup d'incertitudes. C'est ça qui peut être aussi effrayant, notamment pour une population, parce que finalement cette guerre, elle entre aussi dans les foyers danois et européens quand par exemple l'aéroport est fermé ponctuellement.
Exactement. Alors ça, effectivement, comme vous le disiez à l'instant, ça peut causer des dommages économiques si ça se répète. Après, il y a aussi une autre question qui est pourquoi le Danemark ? Il y a d'autres pays, on le sait, à proximité qui ont été visés, mais le Danemark a quand même un rôle particulier, effectivement, parce que proportionnellement à sa taille, il aide beaucoup, en effet, l'Ukraine, sur le plan militaire. Ils ont donné des armes et un arsenal assez important. Et puis, le Danemark est aussi le pays qui préside l'Union européenne. Et d'ailleurs, mercredi prochain, il y a un sommet de l'Union européenne qui se tient là. Donc, ça fait
Emmanuel
beaucoup de coïncidences.
Il sera présent,
bien sûr. Ça fait énormément, si vous voulez, de coïncidences qui font penser que peut-être la Russie n'y est pas complètement étrangère.
Ce ne sont pas des actes anodins, Thierry Arnaud. C'est vrai que ça se répète de plus en plus. Et c'est d'ailleurs pour ça, notamment, que l'Europe prend le sujet à bras-le-corps.
Oui, et pour compliquer ce que disait Bertrand Galichet, il y a même un sommet de la communauté politique européenne à Copenhague aux côtés de l'Union européenne. C'est l'Union européenne plus 10, donc il y aura près d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement qui seront réunis sur place. Donc oui, l'Europe s'est saisie du dossier depuis le début du mois de septembre. Il y a d'abord ce discours de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui était la première à parler de ce fameux mur anti-drone. Il y a eu cette semaine la réunion d'une dizaine de ministres de la Défense pour mettre en place ce que le commissaire européen à la Défense a appelé une nouvelle architecture, un nouvel écosystème de défense en Europe qui est basé sur la lutte anti-drone et sur la maîtrise d'événements tels que ceux dont on vient de parler à l'instant. Ça va prendre au moins un an avant d'avoir mis en place un système de détection efficace. Ça va coûter plusieurs milliards d'euros. C'est une initiative ambitieuse, mais qui n'a que trop tardé et qui est évidemment jugée aujourd'hui comme urgente et indispensable.
Oui, pour en revenir sur cette incursion de drone, amiral, on voyait cette déclaration de la police danoise qui disait « Nous n'avons pas abattu les drones ». Est-ce qu'ils auraient pu ?
Oui, ils auraient certainement pu abattre les drones, en tout cas à proximité immédiate du grand aéroport de Copenhague. Cet aéroport est bien protégé. En fait, ce qu'ils n'ont pas voulu, c'est prendre le risque que ce drone tombe sur une villa, un immeuble, enfin sur des et tue ou blesse des citoyens danois. Donc, ils ont considéré que la menace n'était pas suffisante pour qu'on en aille jusqu'à utiliser des armes létales pour faire tomber ces missiles et provoquer leur chute et provoquer éventuellement des dégâts au sol. Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans l'arrivée de ces drones, ce qui est important, le Danemark, c'est tout près de la côte, en permanence, hein, puisque c'est un pays assez restreint par sa taille, et il y a des côtes tout autour, comme vous l'avez aperçu sur la carte. Ce qu'on pense, c'est qu'il n'est pas du tout impossible que certains de ces drones aient décollé de navires russes, de navires de commerce russes transitant dans les détroits. Et il y en a toujours, hein, puisque ces détroits internationaux ont les libres passages. Donc c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est effectivement ce que vous évoquiez, monsieur, que ces drones soient arrivés dans des camions, comme l'ont fait les Ukrainiens quand ils ont attaqué la Russie, soient arrivés tout simplement dans des camions ou aient été importés par d'un autre territoire, voire même aient été montés ou confectionnés sur le territoire danois. Donc c'est pour ça que tout le monde est concerné, la police, l'armée de l'air, bien évidemment, du Danemark.
Oui.
Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'un mur anti-drone, c'est pure folie d'esprit. Enfin, je veux dire, on peut pas faire un mur anti-drone.
Vous
n'imaginez pas qu'on dresse des filets.
Mais oui, non, mais bien sûr. Non, mais il ne s'agit pas d'un.
C'est un non-sens,
comme vous le disiez.
Bien sûr, non, mais il ne s'agit pas d'un vrai mur.
C'est une
évidemment.
Oui, c'est ça.
Mais sur cette expression,
c'est au sens
en tout
totalement
cas,
figuré.
Oui, bien sûr. Donc, il s'agirait de brouiller, notamment le réseau. C'est bien ça.
Ben, il s'agirait de se doter de moyens qui seraient dispersés tout au long des frontières, voire même sur toute l'étendue du territoire, pour détecter ces drones et pour les neutraliser ensuite. Mais il se trouve que quand on habite à proximité d'une zone sensible en France où les drones sont interdits, on voit quelle est la difficulté pour arrêter ces engins, sauf à leur tirer dessus. Pour ça, il faut avoir des moyens à proximité. On peut les brouiller, on peut les affoler, on peut faire en sorte qu'ils s'écrasent, mais c'est toujours très compliqué. Donc, c'est effectivement quelque chose qui va prendre du temps et il faudra encore beaucoup progresser pour y arriver.
En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que vraiment, cette émergence et cet avènement des drones est en train de complètement redéfinir les règles des conflits, qu'il s'agisse des conflits militaires, comme c'est le cas entre l'Ukraine et la Russie, ou qu'il s'agisse de ce que l'on appelle cette guerre hybride, parce que lorsqu'on n'empêche un aéroport de fonctionner, lorsqu'on l'oblige à fermer pendant plusieurs heures, on ne fait pas une guerre au sens classique du terme, on n'est pas en train de larguer des bombes, mais on cause un préjudice important aux pays que l'on a ciblés. Donc c'est un outil dont on voit qu'il a des usages multiples, qu'il est très difficile à appréhender, qu'il est très difficile à arrêter, qui est par ailleurs extrêmement peu coûteux. Donc il y a des tas d'avantages pour ceux qui les utilisent et qui causent pour l'instant des difficultés auxquelles l'Europe n'a pas encore trouvé la réponse pour protéger son territoire.
Et je voudrais qu'on écoute Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe, des missionnaires, de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a pris la parole ces dernières heures, justement, il a réagi à ces différentes incursions en Europe.
Avec ces provocations, en Pologne, en Roumanie, en Estonie, on est encore en train d'essayer de déterminer l'origine des attaques de drones au Danemark. Donc je ne peux pas confirmer, à ce jour, on ne peut pas confirmer si oui ou non la Russie est impliquée. Mais avec ces manœuvres, que cherche à faire Vladimir Poutine? Il cherche d'abord à masquer son échec patent sur le front. Et ce faisant, il teste au passage trois choses. Notre capacité à nous défendre, il teste notre unité, et la troisième chose que Poutine teste, en plus de notre capacité à nous défendre, de notre unité, eh bien c'est notre résolution.
Bertrand Galichet, est-ce qu'il nous teste nous aussi? On sait qu'il y a, que des drones suspects ont été repérés au-dessus de la base militaire de Mourmelon-le-Grand, c'est dans la Marne, c'était en début de semaine, mais on l'a appris seulement hier. Est-ce qu'on pourrait nous aussi être frappés par ces incursions
oui,
de drones?
Oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, on n'a pas encore pour l'instant d'éléments sur cette incursion au-dessus de Mourmelon, mais en tout cas,
ça pourrait être la main du Kremlin.
On peut l'imaginer, mais on peut pas, voilà, faire des hypothèses pour l'instant, oui. Puisqu'on n'a pas vraiment d'éléments. On peut ajouter à ce que disait Jean-Noël Barrot à l'instant le fait que finalement Poutine ne se contente pas de nous tester. Poutine, en fait, il a plusieurs objectifs avec ses opérations, si c'est bien lui qui les signe, comme c'est très vraisemblable. Il cherche aussi à, finalement, disperser les moyens de défense de l'Europe. Parce que si on défend nos propres frontières, et si on défend nos aéroports, nos centrales nucléaires contre des menaces de drones, et nos équipements militaires, nos bases aériennes, par exemple, ça veut dire que ce sont des moyens en moins pour l'Ukraine. Il faut faire des arbitrages, on ne peut pas tout faire. Donc ça, c'est une première chose. C'est aussi donc un objectif de dispersion des moyens. Et puis, il y a aussi le fait de vouloir nous inquiéter, tout simplement. Et je crois qu'il y a un dernier objectif qui est aussi peut-être le plus intéressant, c'est le fait que face, finalement, à l'échec de son offensive en Ukraine, ou en tout cas au fait qu'il est enlisé dans cette affaire, il doit finalement montrer à la population russe qu'il y a autre chose. Il doit donner, je dirais familièrement, un os à ronger à son opinion publique. Et qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, ça peut être de pousser l'OTAN à la faute en abattant un avion russe, par exemple, si le Kremlin fait voler un avion à proximité d'une base aérienne, que cet avion est descendu, naturellement, les Russes nieront avoir violé quelque espace aérien que ce soit. Mais à ce moment-là, il pourra dire, regardez, finalement, les Européens nous agressent, ils ont tiré sur un avion russe.
Bien sûr.
Et donc, nous avons raison, nous, de dire que nous sommes attaqués par l'Occident et par l'OTAN.
Justement, ça rejoint exactement ce que dit Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Écoutez, là aussi, c'était il y a quelques heures.
Nous entendons de plus en plus de menaces, de recours à la force à l'encontre de la Russie que l'on accuse d'attaquer des pays de l'OTAN. Le président Poutine a nié ces provocations plusieurs fois. La Russie n'a pas eu de telles intentions, mais toute attaque contre la Russie entraînera une réponse résolue.
Bon, Amiral, c'est un peu contradictoire quand on entend Sergueï Lavrov. En gros, il nous dit, alors, ce ne sont pas nos drones. En revanche, vous n'avez pas intérêt à les abattre. C'est là que...
Pas tout à fait. Vous n'avez pas intérêt à nous attaquer, à vous en prendre à nous directement. Bah, donc,
il dit qu'il a nié ses provocations, mais oui, attention, toute attaque contre la Russie entraînera une réponse résolue.
Exactement.
Bon.
Voilà.
donc, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que ça peut inquiéter. Disons, est-ce que l'OTAN est trop faible, encore une fois, face à la Russie et n'ose pas y répondre? Là, avant même qu'on ait réagi, Sergueï Lavrov le dit, vous n'avez pas intérêt à vous attaquer
encore
à la Russie.
Encore une fois, l'OTAN est une alliance défensive composée de nombreuses nations et il faut qu'ils travaillent selon la méthode du consensus. C'est-à-dire que les décisions sont prises à l'unanimité. Il faut donc que tous les gens soient d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire si ça recommence. Bon, ce qui semble évoluer actuellement, c'est qu'effectivement les règles d'engagement qui sont celles, les règles d'engagement, c'est les ordres qu'on donne aux militaires quand on les charge d'exécuter une tâche qui est de s'en prendre à quelqu'un, d'utiliser la force pour faire cesser une activité. Voilà, quand on fait ça, on dit vous allez m'abattre cet avion. Vous comprenez que ça, c'était une décision forte. On va préciser les circonstances dans lesquelles le militaire va pouvoir le faire et on va définir à qui on donne l'autorisation de donner cet ordre de tirer. Donc, à partir du moment où ces règles-là sont fixées, elles sont fixées par le pouvoir politique. Donc, c'est le comité politique de l'OTAN, la plus haute décision qui représente les chefs d'État, qui va fixer ces critères-là. Et ensuite, ce sont ces critères-là que les commandants en chef sont chargés de mettre en œuvre. Donc, ça seront les patrons régionaux de l'OTAN. Quand ils seront concernés par ça, ils appliqueront les règles qu'on leur a données. Et actuellement, les règles consistent essentiellement, s'arrêtent à des tirs de semonce. C'est-à-dire que si vous avez un avion qui arrive et qui rentre par inadvertance dans un espace aérien, on va faire décoller une patrouille. Et on va lui dire « vous dégagez », et s'il ne dégage pas, on a le droit de commencer à ouvrir le feu, c'est-à-dire on va lui tirer devant lui pour lui dire « vous tournez ».
C'est pour ça qu'il sera intéressant de surveiller.
C'est bien ça qu'il faut voir, et on n'en est pas encore à dire « abattez l'avion ». Maintenant, si cet avion est armé, et si par exemple il riposte, à ce moment-là, ça rentre dans le cadre de la légitime défense.
D'où l'inquiétude qui peut monter autour de ces différentes incursions. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous sur ce plateau.